Mon projet, c'est donc de non seulement d'ouvrir mon propre salon, mais de créer un petit réseau d'instituts de beauté où l'humain est au centre, puisque c'était mon projet de départ. Et donc, j'ai décidé de ne recruter que des femmes en reconversion professionnelle. C'est-à-dire avec une forme de solidarité féminine, de pouvoir aider des femmes qui, comme moi, désiraient entreprendre ou avoir une nouvelle vie professionnelle et qui, parce qu'elles avaient 40, 45, 50 ans, ne trouvaient pas de boulot lié à leur âge. Au contraire, aux petits soins, c'était un atout.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast Beauté et Bien-être. Alors, comment allez-vous ? C'est tout de même une sacrée expérience, ce confinement forcé. Mais je me dis que c'est une période bien propice pour réfléchir à sa vie, à ce dont on a envie, aux vieux schémas qu'il faut lâcher. Bref, moi, de mon côté, je vais tenter de faire de ce ralentissement général une occasion d'introspection inédite. Qui sait ce qu'il en sortira ? J'ai enregistré cet épisode avec Claire Martichoux le 5 mars dernier. On n'était pas encore en confinement, mais on sentait déjà qu'il allait se passer quelque chose. Claire a créé les instituts de beauté Les Petits Soins au début des années 2010. Une reconversion, forcée elle aussi, qu'elle n'avait pas imaginée alors qu'elle travaillait dans la com et allait fêter ses 50 ans. Mais voilà, d'autres en ont décidé autrement à sa place. Et finalement, on peut dire, sans trop la trahir, qui lui ont rendu un sacré service. Dans cet épisode, plein de sincérité, on aborde une multitude de thèmes. L'âge, la trahison, la reconversion et finalement, la rédemption. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Et que la force soit avec vous. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors Claire, vous avez eu deux vies professionnelles. Après une carrière brillante dans la communication, vous avez fait face à une situation que nous sommes nombreux et nombreuses, hein, hommes et femmes, à connaître. Racontez-nous.
Écoutez, c'est assez simple. Effectivement, je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce, puis j'ai créé une agence de pub, qui était devenue une agence relativement importante. Et je l'ai vendue à un groupe américain en 2000. Et l'année de mes 50 ans, on m'a dit que j'avais 50 ans.
Ouais.
Voilà. Et on m'a proposé une forme de placard doré. Mais comme tous les placards dorés, je sais que ça ne dure pas très longtemps. Et puis, c'était vraiment dégradant. Et j'ai eu un sentiment de trahison énorme.
J'imagine.
Donc, plutôt que le placard, j'ai préféré négocier mon départ.
Et comment on se relève, en fait, de ce genre de... Parce que c'est une sorte de violence, quand même.
C'est exactement ça. C'est une trahison. C'est sans doute comparable à une trahison amoureuse, alors toute proportion gardée. En plus, moi, j'avais rien vu venir, mais rien,
ah oui,
rien du tout. Non. Et c'était vraiment, en ce qui me concernait, c'était un délit de vieillesse. C'est-à-dire qu'il y avait une jeune femme plus jeune que moi qui voulait ma place, qui faisait du chantage lié à ça. Et du coup, ils se sont dit, oh ben Claire, elle est sympa, elle va accepter notre proposition. Mais je suis sympa, certes, mais
dans
une certaine mesure, voilà, exactement. Et donc, en plus, quand on me l'a annoncé, c'était de manière extrêmement maladroite et très peu élégante. C'est-à-dire qu'un des patrons du groupe, qui était mon associé, en fait, m'a invité à déjeuner, chose qu'il ne faisait jamais. Je me suis dit, bah, c'est sympa de m'inviter à déjeuner. Et il a commencé le déjeuner en me disant, tu sais que tu vas avoir 50 ans cette année. Donc là, j'ai compris immédiatement. Donc en fait, le déjeuner ne s'est pas terminé.
Ouais, j'imagine.
J'ai pris mes affaires, je suis partie et j'ai beaucoup pleuré. J'ai appelé mon mari, un mari en or, qui m'a dit, bon, il m'a dit, rentre à la maison, on va discuter ce soir. Et le soir même, il m'a dit, écoute, dégage.
Ouais.
Certainement que le temps est fini pour toi, tu vas faire que ressasser, que ruminer, tu vas être malheureuse, tu vas te sentir dégradée, donc tu aimes travailler, tu aimes entreprendre, fais autre chose.
Bon conseil.
Voilà.
De très bons conseils. Et vous avez décidé de reprendre vos études et de devenir esthéticienne. C'est quand même pas banal comme
alors,
reconversion.
En fait, c'est effectivement ce que j'ai fait, mais ça n'a pas été aussi tout droit que ça.
D'accord.
En fait, à l'époque, donc c'était il y a 8 ans, je ne connaissais rien à la beauté. Et pour vous donner mon niveau, je confondais une crème démaquillante et un lait démaquillant et une crème de jour.
Ok.
Donc j'étais vraiment.
Ah, vous étiez très loin.
Très loin. Voilà. Et en fait, c'est pas du tout par la beauté que je suis arrivée dans le métier. C'est par le métier d'esthéticienne. Au début, j'étais. Enfin, en plus, j'ai oublié de vous dire que pour enrichir des patrons et des actionnaires américains. J'étais obligée de licencier des gens tous les ans et de recruter parce qu'on avait du travail. Enfin, ça devenait complètement inhumain.
C'est horrible, ouais.
Voilà. Mmh. Et donc, j'avais besoin de, pas de me racheter, faut pas exagérer, mais pas redonner un sens parce que c'est un peu facile. Mais disons que j'avais besoin de remettre moi-même l'humain au centre de mes préoccupations en tant que manager. Et au début, j'ai pensé à la réinsertion. Donc, et j'ai fait un stage dans une association de réinsertion. Et là, je me suis dit, c'est trop difficile. Il y a trop d'échecs dans la réinsertion. Et j'aurais dû non seulement apprendre un métier, mais aussi faire psycho pour vraiment aider les gens.
C'est ça.
Et j'avais plus le temps. J'avais 50 ans.
Ouais, voilà.
Donc,
un principe de réalité.
Voilà, principe de réalité. Et en fait, tout simplement, l'institut de chez moi, en bas de chez moi, dans le 15e, qui m'a donné l'idée. Je voyais que je fréquentais. Je voyais bien que le métier d'esthéticienne était un métier très sympa. Je voyais bien que le carnet de rendez-vous était plutôt rempli. Je voyais bien que le lieu n'était pas à la hauteur du bien-être qu'on vient chercher pour X raisons de déco, de vétusté ou de choses comme ça. Et puis, je voyais bien que la patronne n'était pas très sympa avec ses employés.
Ah ouais.
Et c'est là que j'ai eu l'idée de dire, on va valoriser le métier d'esthéticienne et on va relancer les instituts de quartier. Voilà, et là j'ai eu de la chance parce que ça a correspondu à une période qui était favorable sur le plan scolaire. Donc j'ai décidé de faire un CAP d'esthéticienne.
Okay.
J'ai commencé en septembre.
Comme tous les étudiants.
Comme tous les étudiants de CAP, de septembre à juin. Et en fait, j'ai choisi l'école en fonction du taux de réussite aux examens. Ça a été mon seul critère.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Et il se trouve que c'était l'école de Madame Maurice.
Très célèbre école.
Très célèbre école, certainement la meilleure école. Et très célèbre, Madame Maurice. Mmh. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. D'abord, j'ai eu la chance d'aimer ce métier, d'aimer masser, parce que ça, c'était pas gagné. À l'époque, même mettre de la crème solaire sur le dos de mon mari, c'était un peu limite. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Et puis, je suis arrivée à l'école l'année un peu charnière pour la famille Maurice, où ils avaient décidé de tout vendre.
Ah oui.
Et d'ailleurs, ils ont tout vendu. Et par le truchement de cette vente, ils m'ont donné l'autorisation, ce qui était inédit, de diffuser ce fameux soin, la kinéplastie, ce fameux massage du visage, dans Paris. Et donc, ça a été vraiment ma chance, parce que c'est le point de différenciation, non seulement des petits soins, mais même de notre façon de voir les choses, qui fait que nous pensons que nos mains valent mieux que les produits. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les produits, qu'on n'a pas besoin de produits, mais sur le plan physiologique, les mains sont plus importantes, c'est-à-dire les massages.
Alors, on va en reparler. Et alors, comment ça s'est passé l'année, justement, de CAP? C'était comment?
C'était génial.
C'était génial?
Alors, c'était génial parce que... parce qu'un CAP, c'est pas le Club Med.
Non,
on apprend un vrai métier. Mm. On apprend la théorie, on apprend la pratique. La théorie est essentielle, c'est-à-dire qu'on apprend la chimie, la biologie de la peau, la chimie des cosmétiques. Enfin, on comprend, voilà. La pratique, bien sûr. Et puis, l'école Françoise Maurice, c'est une école... ou très académique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cheveu qui dépasse, il n'y a pas un portable dans une poche.
C'est à l'ancienne.
C'est à l'ancienne, beaucoup de discipline, mais qui est très utile au métier. Et d'excellents professeurs. Donc, voilà, j'ai vraiment aimé cette année. Et puis, j'étais avec des jeunes femmes. C'était tout nouveau pour moi. J'avais des horaires scolaires, alors qu'avant, j'avais des horaires de dingue. Donc, voilà. Et puis, au bout de 9 mois, j'ai commencé en septembre, j'ai fini en juin. et j'étais diplômée, mais j'avais vraiment la peur au ventre. C'est-à-dire que l'inconvénient d'aller à l'école à 50 ans, je ne sais pas si c'est un inconvénient d'ailleurs, mais on a zéro insouciance. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ça n'est qu'un examen et 10 sur 20 suffit. Mais à 50 ans, vous ne pouvez pas faire une impasse, vous ne pouvez pas dire « je ne peux pas savoir ça, je ne peux pas savoir ça, je ne peux pas savoir ça ». Donc j'ai eu très peur de ne pas l'avoir.
Oui, ouais, bien sûr.
Mais en fait, je l'ai eu très haut la main. Ouais. Voilà. Mm. Mais je ne regrette pas. C'était,
d'abord, c'est formateur.
Très formateur. Mm. Et puis, une année, une parenthèse exceptionnelle.
Ouais, voilà. Et votre projet, c'était d'entrée de jeu, d'ouvrir votre propre salon ?
Ah oui. Mon projet, c'est donc de non seulement d'ouvrir mon propre salon, mais de créer un petit réseau d'instituts de beauté où l'humain est au centre, puisque c'était mon projet de départ. Et donc, j'ai décidé de ne recruter que des femmes en reconversion professionnelle.
Ah ouais.
C'est-à-dire avec une forme de solidarité féminine, de pouvoir aider des femmes qui, comme moi, désiraient entreprendre ou avoir une nouvelle vie professionnelle et qui, parce qu'elles avaient 40, 45, 50 ans, ne trouvaient pas de boulot lié à leur âge. Au contraire, aux petits soins, c'était un atout. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert, il y a 8 ans, 2 instituts, même jour, même heure.
Ah, oui.
Je voulais, dès le départ, ne pas me dire « j'en ai qu'un et je m'y attache ». Je voulais tout de suite avoir le projet qui se dessine.
Ah, d'accord. Et alors, votre credo, c'est « nous croyons bien plus dans l'efficacité de nos mains » que dans celle des produits, comme vous disiez.
Oui.
Alors, le protocole phare, c'est la kinéplastie. En quoi ça consiste ?
Alors, en fait, pour répondre au point des mains versus les produits, ça, c'est physiologique. C'est-à-dire qu'entre l'épiderme, la surface de la peau qui est plus fin qu'un papier à cigarette, et le derme, il y a une membrane qui ne laisse rien passer. Heureusement, parce que sinon, on serait des passoires à bactéries.
C'est clair.
Donc, pour aller en profondeur au niveau du derme, il faut ou des injections, ou des bistouris, ou des massages. Mmh. Voilà. Après, ça ne veut pas dire du tout que je dénigre les produits. Mais les produits, il faut les considérer comme du cirage.
Oui, voilà.
C'est-à-dire que si on ne cire pas ses chaussures, elles ne sont pas jolies. Si on ne cire pas son sac à main, il n'est pas joli. Si on ne cire pas sa peau avec des bons produits, elle n'est pas belle. Mais c'est le seul...
C'est
la seule vertu
oui, voilà.
qu'on peut donner aux produits cosmétiques.
Mmh. Et donc, la kinéplastie, du coup, c'est quoi ? C'est des modelages, c'est des pincements ? Comment ça se
Alors,
passe ?
Alors, la kinéplastie, c'est des pincements qui ne sont pas des pincements jaquets. On pourrait les appeler des pincements Maurice. Ils sont très spécifiques à la méthode de Madame Maurice. Ils sont d'ailleurs assez difficiles à acquérir parce que c'est un pincement à la fois avec beaucoup de pression, mais beaucoup de délicatesse. Enfin, il est très spécifique. Et la kinéplastie a 4 vertus. La première, c'est que c'est un nettoyage profond.
D'accord.
Parce que comme on pince la peau, on la purge. On fait sortir tout ce qu'elle a en trop, excès de maquillage, toxines, sébum, etc. Ensuite, elle joue sur le teint. Toujours grâce au massage, on draine. Donc, on fait circuler le sang, ça enlève les rougeurs. On fait circuler la lymphe, ça enlève la terreur. Donc, on ressort avec un teint parfaitement équilibré. Maintenant, on appelle ça le glow.
Le glow.
Mais en fait, mais bon, c'est l'éclat oui. du teint. Mmh. Voilà. Le troisième bénéfice, c'est un travail minutieux qu'on fait sur les rides, en les contrariant avec nos pincements, de façon à limiter la formation du sillon. Enfin, et c'est le secret de beauté de ce soin, notre peau, elle est charpentée, elle est tenue par des petites fibres d'élastine et de collagène qui sont comme des petits ressorts. Lorsqu'on vieillit ou qu'on est fatigué, etc., etc., les fibres existantes s'usent et surtout les cellules qui fabriquent des nouvelles fibres sont fainéantes et n'en fabriquent
plus autant,
en tous les cas beaucoup moins. Mmh. Et du coup, le but des pincements, c'est à la fois de redresser les fibres existantes et de stimuler, de maltraiter ces cellules pour qu'elles se mettent à surproduire des fibres et ainsi avoir un effet lifting naturel.
D'accord.
Alors, on l'a en une fois, parce qu'on a fait le massage et que la cliente sort transformée, souriante. En plus, c'est extrêmement relaxant, donc elle est reposée, elle a bonne mine, les rides sont estompées, les fibres sont redressées, voilà. Après, pour avoir un effet lifting naturel permanent, il est recommandé de le faire Régulièrement. Ouais. Après, le régulièrement, c'est chacun sa cadence, chacun ses moyens, chacun ses arbitrages, mais c'est la régularité qui paye.
Bien sûr. Et vous devez être ravie de voir que les facialistes, comme on vous appelle aujourd'hui, sont de nouveau sur le devant de la scène. Merci Instagram. C'est l'effet clean beauty, vous pensez, qui a fait que tout à coup on s'intéresse à nouveau au métier et aux mains des esthéticiennes?
Alors, je pense que c'est l'effet clean beauty, vous avez tout à fait raison. C'est l'effet, le principe de réalité. Ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les cosmétiques, ben, les femmes commencent à le savoir, commencent à savoir qu'il ne faut pas surinvestir dans une crème, il ne faut pas en attendre de miracles, etc. Et puis je crois aussi que c'est l'héritage de grandes femmes de la beauté, comme Madame Maurice, comme Joëlle Sciocco, qui ont bien avant nous compris la physiologie de la peau et compris que c'est par le massage, je veux dire, par une méthode naturelle, oui, ouais, qu'on pouvait avoir des résultats.
Alors, les petits soins aujourd'hui, ce sont 7 salons.
Oui.
C'est quoi votre ambition ?
Je voudrais revenir, si c'est possible, oui, 2 secondes, sur le terme facialiste. Je trouve à la fois chouette, parce que c'est une manière de renouveler le métier, de redonner de l'intérêt à ce métier, etc. Donc, je trouve ça tout à fait pertinent et porteur. En revanche, je trouve ça un tout petit peu dommage de nous débaptiser.
Ouais, je suis d'accord.
Parce que le métier d'esthéticienne est un métier formidable, vraiment formidable. On fait de belles rencontres, on distribue du bien-être, on a un suivi de clientes, etc. Bref, c'est un métier formidable et qui est malheureusement très mal valorisé en France, depuis des années, depuis des décennies même. Alors, si on abandonne le nom esthéticienne pour tout d'un coup s'appeler facialiste, c'est comme si on reniait le métier d'esthéticienne. Et ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je préférerais qu'on s'appelle esthéticienne masseuse, maintenant qu'on a le droit d'utiliser le mot masseuse. Mais facialiste, il y a un côté un peu à la mode.
Ouais, voilà. Un peu trendy.
Un peu trendy et un peu réducteur, parce que l'esthéticienne, elle ne fait pas que la face.
Bien sûr, bien sûr. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Donc, quelle ambition pour les petits soins ?
Ah, ça, c'est une question...
Un piège ?
Non, pas du tout un piège. Déjà, il y a une détermination qui est de ne pas faire rentrer d'investisseurs.
Ah, ouais.
Parce que ce que j'aime, moi, c'est masser, c'est être avec des clientes, c'est le contact, c'est le conseil, etc. C'est la complicité. Et donc, si je devais faire rentrer un investisseur et du coup me diriger complètement vers la gestion et le développement et abandonner la cabine, je crois que je perdrais beaucoup de plaisir à mon métier. Ouais, ça, j'imagine. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les petits soins, ça marche parce que c'est assez petit et assez, j'aime pas ce mot, pas familial, mais c'est assez complice. Et bien sûr, j'en ai rencontré des investisseurs, mais si tout d'un coup, il fallait qu'en un an, j'ouvre 15 petits soins, on y perdrait notre âme.
Ouais.
Donc, pour répondre à votre question, si j'en ouvre un par an, 2 par an, ou 0 par an...
Ça vous va ?
Ça me va très bien. Voilà. L'essentiel, c'est de rester extrêmement qualitatif.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, vous parliez de reconversion. Former les femmes, pour vous, c'est vraiment une chose hyper importante.
Alors, je ne les forme pas sur le métier d'esthéticienne, puisque de toute façon, il faut, en France, au minimum, avoir un CAP. Ce qu'ont pas toujours les facialistes.
Ouais.
Or, ça me paraît indispensable pour masser une peau, pour conseiller une cliente, ou un client d'ailleurs, de connaître les cellules, la chimie, les échanges cellulaires, la physiologie. Je ne vois pas comment on peut juste masser sans connaître tout ça.
On est d'accord.
Donc, les femmes sont forcément diplômées lorsqu'elles arrivent aux petits soins. Parfois, elles ne sont pas encore diplômées, donc on va les accompagner dans leur diplôme. Mais pour commencer à travailler, elles sont diplômées. Après, je les forme, oui, à la kinéplastie, ce que j'ai le droit de faire, et aux autres soins, les petits soins. Et c'est moi qui les forme.
Ouais, c'est important, la transmission.
C'est important, la transmission, puis c'est surtout très important que les esthéticiennes des petits soins soient d'une qualité irréprochable. Je ne peux pas confier des clientes à des esthéticiennes qui soient trop peu qualitative.
C'est sûr. Et alors, que diriez-vous aux femmes qui se retrouvent aujourd'hui à 45, 50 ans, placardisées, licenciées, et qui sont inquiètes à l'idée de se retrouver sur le marché du travail?
Alors, je vais leur dire quelque chose qui est très facile à dire. Je vais leur dire de ne pas avoir peur. Mais pour ne pas avoir peur, il faut quand même avoir un bon entourage familial. C'est-à-dire, il faut des enfants qui sont assez grands et ne plus être trop chargés de famille, et un mari qui est présent et ouais, qui peut ça. Assurer. Mmh. C'est sûr que moi, j'ai eu cette chance d'avoir des enfants assez grands, un mari formidable et que j'ai toujours été soutenue. Voilà. Pour une femme qui n'a pas cette chance, c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Mais, cependant, il faut savoir que, bien sûr, dans la majorité des cas, on gagne moins d'argent. Mais que quand on gagne moins d'argent, on paye moins d'impôts.
Oui, c'est vrai.
Donc finalement,
on s'y retrouve.
On ne perd pas autant que ça en pouvoir d'achat. En plus, c'est des détails, mais moi, je travaille en blouse toute la journée, donc je n'ai plus besoin de m'acheter de vêtements.
Ouais, plus de représentation.
J'ai plus de représentation. C'est sûr que je voyage moins qu'avant, mais c'est bon pour l'empreinte carbone. Et puis, j'ai beaucoup avant. Voilà. Donc, je pense que le fait de pas avoir peur, c'est important. Le fait d'essayer d'oublier la trahison, c'est ouais, important.
Psychologiquement. Hein.
Psychologiquement. Et c'est très difficile.
Vous diriez qu'il faut se faire aider, justement, peut-être par un psychologue ou quelqu'un.
Oui, ou par un coach, ou un psychologue, voilà. Et après, l'ultime conseil que je peux donner, c'est il faut absolument être formé. Je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, mais si vous voulez, si vous aimez cuisiner et que vous savez très bien faire la blanquette, surtout, il ne faut pas ouvrir un restaurant. Il faut d'abord faire un CAP cuisine voilà. Et après, ouvrir son restaurant. Ouais. Et on a trop tendance en France à dénigrer ces formations type CAP. Or, je le répète, ce sont des formations extraordinaires, des formations qui créent des métiers, des vrais métiers, et il ne faut pas se lancer sans formation.
C'est sûr. Et alors justement, quel conseil vous donneriez aux plus jeunes cette fois, qui seraient justement tentés par le métier en voyant sur les réseaux sociaux certaines facialistes, esthéticiennes donc, célèbres?
D'abord, c'est un peu dommage en France, hein, parce que les métiers manuels sont peu valorisés. Ouais. Donc je vois... Quand je vais de temps en temps dans les écoles ou dans des forums, les parents qui viennent me voir et qui me disent oh, « ma fille veut devenir esthéticienne, c'est une catastrophe ». Je dis « écoutez, non, ce n'est pas une catastrophe. D'abord, elle est sûre d'avoir un métier. »
Oui, c'est ça, surtout.
Et elle ne sera pas au chômage.
Et c'est quand même ce qui inquiète les parents en premier.
Voilà, donc après, il faut voir le métier d'esthéticienne autrement que par les simples épilations. Il y a un vrai apport sur le bien-être, sur la beauté de la femme, sur l'anti-âge, sur la détente, sur le bien dans sa peau, quoi. Donc, le plus dur, je crois, pour une jeune fille, c'est de convaincre ses parents.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Ouais, ouais.
Et après, la jeune fille, si elle arrive à convaincre ses parents, mais le plus souvent, les parents se laissent convaincre, c'est qu'il faut qu'elle sache que la théorie est aussi importante que la pratique. C'est pas quand on sait masser, on peut tout avoir une bonne main. Mais savoir comment pincer, savoir quel muscle simuler, savoir quel trapèze, là, 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 là. Bref,
ouais,
il faut
ouais, bien sûr,
apprendre
il faut
la théorie.
Apprendre. Alors, pour finir, quelques questions un peu dans l'air du temps. Le truc beauté qui vous fait hurler. Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui traîne sur les réseaux?
Le truc beauté qui me fait hurler, c'est quand on utilise trop de produits.
Ouais.
Ouais. Parce que je vois souvent, alors ça c'est pas bon pour la peau, parce qu'elle peut être gorgée de produits au niveau de l'épiderme, comme spongieuse, et en plus ça peut l'alourdir, donc ça peut favoriser le relâchement. Donc tout ce qui est double, triple nettoyage, sérum le soir, crème le soir, sérum le matin, sérum le soir, crème le matin, blablabla,
ouais,
tout
ouais.
ça, c'est beaucoup trop. D'ailleurs, c'est amusant parce que les Coréennes
oui.
ont inventé il y a quelques années...
Layering,
où il s'agissait d'en rajouter. Et là,
elles reviennent en arrière
complètement. Mmh. Et ça s'appelle un nouveau concept, le skip care,
oui.
où trois produits suffisent,
et oui.
deux le soir et un le matin. Et je crois que leur nouveau concept est meilleur que l'ancien.
Oui, on est d'accord. Et le geste ou le produit qu'on devrait utiliser tout le temps, enfin, sur lequel on ne devrait pas faire l'impasse, que ce soit un geste ou un produit.
Les gestes, c'est compliqué parce que je ne vais pas vous faire par podcast un cours d'automassage, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens.
Je crois qu'il faut... Écoutez, je vais vous dire... Je crois que le plus important, c'est le coton hydrophile versus les disques. Parce que le coton hydrophile, il absorbe beaucoup mieux la crasse quand on l'enlève et il est suffisamment souple pour épouser les creux et les bosses du visage. Donc, le coton hydrophile me paraît le plus important.
Donc, c'est le coton qu'on trouve
de nos grand-mères.
En sachet de nos grand-mères. Voilà,
le moins cher.
Qu'on effilochait.
Voilà, d'accord. C'est celui-là. Okay. C'est celui-là. Et avec ce coton, eh ben, il faut une lotion. Voilà. C'est le plus important, c'est du coton et de la lotion. Ça pourrait être même le seul geste le soir et le matin, pour peu qu'on ne se maquille pas.
Ouais, très bien. Donc, démaquillage au coton hydrophile. Et alors, quelque chose de particulier à conseiller en cette saison, sortie d'hiver, début de printemps
Alors, sortie d'hiver, début de printemps, en plus un peu...
Oui.
Un peu tourmenté en France, hein, malheureusement. Enfin, c'est très regrettable.
C'est très regrettable.
Je pense que... Les changements de saison, c'est toujours un moment un peu entre chien et loup. On peut un peu avoir peur de l'avenir, etc. Donc, venir faire un soin, venir se décontracter, c'est le meilleur conseil que j'ai à donner.
Bon, message reçu. Merci Claire.
Je vous en prie, avec plaisir.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.